Nicolas Corim, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président fondateur de la société Big Fish qui s'occupe de la transformation des entreprises. On pourrait dire que dans cette période de crise sévère, que ce soit en Europe mais aussi dans d'autres pays, cette question de transformation est importante. On dit souvent que notre monde, le monde économique est en pleine transformation. Pour les entreprises, il y a un vrai enjeu sur la transformation depuis peut-être le début de la crise.
Ouais. Je pense que la crise renforce la prise de conscience et éventuellement aussi le courage de réellement transformer une entreprise. Pourquoi ? Parce que chaque crise, c'est en même temps une opportunité. On doit se poser des questions, non seulement sur les coupes superficielles, mais sur le fond. Et je pense qu'actuellement, on a la question de se poser les questions sur deux éléments. J'appelle ça l'effet double T. Le premier, c'est le temps. Dans les entreprises aujourd'hui, on subit de plus en plus la pression du temps. C'est-à-dire qu'il y a des consommateurs qui demandent des innovations, des fonctionnalités différentes, qui changent d'avis. Donc on est obligé en tant qu'entreprise d'apporter des produits, des services de plus en plus rapidement, de plus en plus innovants sur le marché. En même temps, on a l'effet de la taille. C'est-à-dire, curieusement, plus vous avez une taille importante, plus vous êtes fragile, puisque plus vous êtes rigide. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous adapter facilement à un changement de marché, à un changement de comportement de consommateur. Et ce changement s'opère uniquement si vous avez vraiment un changement de fond. C'est-à-dire, au lieu de poursuivre un modèle qui est maintenant vieux de 50 ans, où à chaque crise, on rapote un peu, on coupe un peu, on licencie un peu, etc. Je pense que c'est le moment de se poser la question vraiment sur le fond du modèle économique.
Alors ça, c'est effectivement le cœur du sujet. En même temps, on voit davantage quand il y a des problèmes, notamment les grandes entreprises, on voit suppression de 10% des effectifs. On voit plutôt ça que effectivement les transformations. On a vu notamment dans les télécoms récemment que l'arrivée, par exemple, d'un opérateur comme Free a considérablement bouleversé le marché.
Ouais. On se pose effectivement des questions. Alors on peut se poser deux questions, je dirais brutalement, de manière provocatrice, sur la qualité d'anticipation et sur aussi le courage d'un management aujourd'hui de dire « je fais des choses ». Je reprends l'effet. Dès que vous voyez aujourd'hui quasiment un licenciement sur un marché, c'est une coupe traditionnelle qui ne résout en rien les problèmes de fond et de moyen terme d'une organisation. Donc, parce que vous allez réduire votre levier, vous allez faire la course au coût, mais tout le monde fait la course au coût. Donc, in fine, vous n'allez pas dégager un avantage compétitif. Et plus vous faites la course au coût, plus vous allez vous éloigner, in fine, de votre client qui vous paye, pour lequel vous êtes censé créer une valeur ajoutée. Donc, effectivement, on voit toujours des coupes, mais par rapport aux crises qu'on a vécues en 2001, par exemple, on voit curieusement moins de coupes, plus de solidarité avec les fournisseurs, par exemple. Au lieu de tailler dans le vif, au lieu d'avoir 90% des organisations qui font ça, aujourd'hui, vous n'avez peut-être que 70 ou 60. Donc, nous, on voit une amélioration, même s'il n'est pas encore complètement perceptible sur le marché.
Alors, j'ai eu l'occasion ici même d'interviewer des sociétés, notamment d'origine indienne, et on les voyait complètement remettre en cause, on va dire, le business model, ou en tout cas la hiérarchie presque d'un groupe, en essayant de trouver justement des solutions qui venaient du terrain, et en faire en sorte que ces solutions qui étaient efficaces pour les clients justement, puissent se développer. On voit des choix comme ça stratégiques importants. Ouais. On se dit qu'il y a un modèle européen, un modèle américain, un modèle asiatique.
Ouais. Alors, je pense qu'effectivement, comme vous le dites, il y a un modèle. Et je pense que ce modèle nouveau va être notre modèle économique européen. Pourquoi ? Parce qu'à la fois les États-Unis et l'Asie sont calibrés sur un modèle de masse. C'est-à-dire, on bâtit une organisation, on crée une certaine taille, on conçoit et on produit des produits de masse. Évidemment, il faut les écouler derrière. Donc, si vous avez un client qui dit « je ne veux pas du vert, je veux du rouge », vous avez vos 550 millions de verres sur les étagères et vous ne savez pas quoi faire. En Europe, nous avons un bordel ambiant. Plein de pays, plein de langues, plein de cultures, plein de marques, plein de comportements différents. Mais nous avons un avantage qui est la complexité. Si demain, nous arriverons à travers ce nouveau modèle à non seulement gérer cette complexité, mais à valoriser la diversité, d'avoir des cultures différentes, qui ont des regards différents, qui ont des idées différentes pour justement pouvoir créer, développer et fournir des services beaucoup plus adaptés à une clientèle diversifiée. Là, nous allons trouver le début d'un vrai modèle économique européen qui nous permettra non seulement d'être compétitifs, mais que peut-être même les Chinois vont essayer de copier à terme.
Mmh. Vous avez récemment insisté notamment sur la question des achats. Alors c'est vrai qu'on y pense dans ces périodes-là, on se dit il suffit de mieux acheter, entre guillemets, et puis ça règle les questions. Mais mieux acheter, ce n'est pas forcément évident.
Non. Alors mieux acheter dépend du terme. Traditionnellement, quand on dit achète, j'achète. Je suis organisation A, je vais chez vous et je dis je veux un stylo, faites-moi le stylo, et plus vite et moins cher. C'est pour ça que je vous paye. Sauf qu'on oublie aujourd'hui qu'une organisation lambda achète 3/4 de son chiffre d'affaires, 75%. Ça veut dire que derrière ce chiffre, vous avez 3/4 des ressources de l'entreprise qui sont à l'extérieur et vous avez 3/4 du savoir qui sont à l'extérieur. Si maintenant vous êtes face à une réactivité énorme face à vos clients, parce que vous devez produire des choses très différentes, c'est une question de savoir. Donc la question de demain va être comment vous allez pouvoir capter ces 3/4 de savoir, parce que vous avez plus de savoir à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et le rôle des achats va être absolument crucial, parce que l'acheteur va se transformer d'un cost killer, en quelque sorte, en gestionnaire de ressources du savoir, qui va utiliser le savoir externe pour changer la manière de faire des choses à l'intérieur, pour co-innover, co-développer, co-améliorer, pour faire deux fois plus vite.
Donc ça voudrait dire, quelque part, avoir des relations très différentes que peut-être celles qui ont été établies au cours des dernières années avec, avec les fournisseurs.
Absolument. C'est un changement de paradigme aussi pour les organisations, pour les achats eux-mêmes. Et on voit certaines organisations qui ont une façon de travailler de manière radicalement différente. Je cite un cas qui est la société Manitou, par exemple, qui a été sauvée par ses fournisseurs et qui, depuis, travaille dans un mode collaboratif qui n'a absolument rien à voir avec une société traditionnelle. Et ça marche très bien.
Ça, on en entend parler, notamment, bien sûr, sur les réseaux sociaux, mais ça fait encore peur à beaucoup d'entreprises. Quand on parle de mode collaboratif, on a l'impression que tout le monde va se mêler un peu de tout, et y compris peut-être les concurrents.
C'est une question de structuration différente. Évidemment, dans un mode collaboratif, vous n'êtes pas là pour vous embrasser sur la bouche. On est là parce qu'on a envie de faire deux fois plus vite, deux fois plus performant, deux fois plus productif. C'est tout simplement une manière de casser les silos qui existent aujourd'hui à l'intérieur d'une organisation et entre une organisation et ses fournisseurs pour libérer, pour mettre ensemble des gens qui ont des angles différents, pour tout simplement pour aller deux fois plus vite et être deux fois plus performant. Mais bien entendu, il faut structurer cette démarche. Il faut savoir comment protéger la propriété intellectuelle, comment respecter la confidentialité, comment partager le gâteau, in fine. Donc il ne s'agit pas de changer aveuglément, mais en structurant cette démarche.
Du côté des entreprises elles-mêmes, du côté du top management, c'est ce que justement les grands patrons, les grands dirigeants commencent à être sensibles à ces sujets-là.
Alors, pour suivre ce modèle, je dirais brutalement, il faut deux choses. Il faut une vision ou du courage de le mettre en œuvre. Donc, vous allez trouver des grands patrons qui sont sensibles parce qu'ils savent que leur recette traditionnelle ne fonctionne plus. Encore faut-il avoir le courage de mettre en œuvre quelque chose de nouveau, quitte à le tester sur un scope plus petit, sur une forme de pilote. Curieusement, je pense qu'au niveau des PME, on a commencé à trouver des exemples beaucoup plus fréquents, peut-être parce que les PME sont tout simplement plus proches du terrain et plus proches de leurs hommes.
Peut-être une réaction plus rapide qu'un grand groupe qui va devoir faire bouger, on va dire, beaucoup d'éléments en son sein avant que la machine se réagisse.
Oui et non, mais vous avez des différences évidemment notables. Dans une PME, vous avez moins de ressources, vous êtes plus proche, vous avez moins de trésorerie. Dans un grand groupe, vous avez plus de ressources techniquement pour faire ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a peut-être de ça, l'effet de time, il y a surtout un effet aussi de distance par rapport au terrain. Dans un grand groupe, vous êtes tout simplement plus loin du terrain et de vos hommes que sur une petite PME.
Le mot de la conclusion, clairement, de votre point de vue, si ces transformations ne sont pas faites pour un certain nombre d'entreprises, alors on connaît des secteurs classiques, bien sûr, on ne les citera pas, mais même pour d'autres entreprises qui aujourd'hui sont compétitives, elles pourraient, hein, parce qu'on parle beaucoup de compétitivité en ce moment, elles pourraient ne plus le devenir si elles restent avec leur schéma actuel.
Non seulement j'en suis convaincu, mais on voit des cas tous les jours. Pour moi, 70% des entreprises, tous secteurs confondus, vont avoir à adapter ce modèle, en Europe en particulier, si elles veulent non seulement grandir, mais survivre, tout simplement.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Nicolas Acourim. On rappelle, vous êtes donc le président fondateur de Bigfish, donc un cabinet qui conseille donc les entreprises pour la transformation. Merci.
Merci à vous.